Bonne année à tous. Ici Walter Moulandi au micro du Okapi Action. L'activité commerciale entre Butembo et Goma souffre le chaud et le froid. C'est depuis les affrontements de Kanyabayonga du 12 décembre 2004. Kanyabayonga est situé en effet sur l'unique route au centre entre Butembo et Goma. Les commerçants s'en plaignent. Ils ne peuvent pas acheminer leurs marchandises de Butembo vers Goma et de Goma vers Butembo. La province du Maniema est confrontée à un problème de sécurité transfusionnelle. Il faut y trouver une solution. Cette préoccupation était au centre d'une rencontre entre responsables provinciaux du programme national de la transfusion sanguine. Que feront-ils pour améliorer la sécurité transfusionnelle au Maniema? Nous l'apprendrons dans ce magazine Okapi Action d'aujourd'hui. Imaginez un enfant sans parents. La mort de ses parents lui enlève toute envie de vivre. Vous pouvez lui redonner une seconde chance en lui donnant une famille de substitution. Vous pouvez l'adopter. Il y a des personnes parmi vous qui avaient la volonté d'adopter un enfant. Vous ne savez pas comment procéder. Rappelle la procédure dans quelques instants en visitant un orphelinat et en parlant avec les responsables. Et puis, bonne année 2005 a vécu. On va rentrer dans une partie de l'ambiance de la Saint-Sylvestre en vous proposant un reportage dans ce sens. Okapi Action, le premier numéro de l'an 2005. Je suis heureux de vous la proposer avec Willem Lungamba à la partie technique, Jolie Mbalivoto à la régie, Donna Madimba aussi, Nathalie Mouteba pour la programmation musicale, Nicole Ngaka et Sylvie Sona dans le reste de l'équipe. On est tous au complet. Au micro, Walter Mbairene Moulondi. C'est parti. J'ai oublié de dire que Jody Keshama est en congé. Il nous revient dans 2 jours. Voilà toute l'équipe. Je ne voulais pas ne pas oublier quelqu'un de l'équipe de production des Okapi Action. Et évidemment, la plus grande partie de l'équipe de notre magazine, c'est vous, auditeurs, qui appelez, qui intervenez grâce à la participation de Arlette qui reçoit souvent vos appels. Bonne année 2005 a vécu. Kinshasa et les rues étaient décorées de guirlandes, jeux des lumières, bananiers, la musique, gospel ou la world music, ça dépend si vous étiez là pour danser, pour chanter au rythme de je ne sais quel artiste, c'est selon votre choix et votre goût. En tout cas, ça fusait de partout. Comment ça s'est passé à Kinshasa, par exemple? Feedback.
Ils sont 10, tous étudiants à Kinshasa et vivant au 71 bar Z, avenue de la pharmacie commune de Barumbu. Papy, Omer et compagnie poursuivent une fête qu'ils ont commencée le soir du 31 décembre 2004. Nous sommes le 1er janvier 2005 et il est déjà 10 heures. Conscient que la Saint-Sylvestre ou la Bonana n'est qu'un événement éphémère, de loin moins prioritaire par rapport aux attentes réelles et actuelles de la population congolaise, ces jeunes, la vingtaine révolue, expliquent pourquoi ils ont tenu à faire la fête et surtout pourquoi ils la poursuivent jusqu'à 10 heures le matin du jour suivant.
Ce n'est pas n'importe quel événement, et ça, fin d'année et puis le début de l'année. Donc, il faut faire comme on a au Banango, l'année passée, aussi c'est en haut, l'année à Siga. Moi, je sens comme si je fais une année en train de danser.
Le MDF, c'est un grand domaine.
Mon cher, tout ce que je fais, c'est pour rendre ce corps joyeux. À un moment, si je me sens fatigué, sûrement, je vais me reposer. Mais jusque là, je ne sens pas que je suis vraiment fatigué puisque je me suis préparé pour veiller le 31.
Bon, c'est normal que tu me battes pour... Et bien, on va mettre à la bisou. Moi, comme moi, je mais bisou, on a toujours vivant, on a toujours ces pays-là, qui ici, on a tout.
À Kinshasa, les jeunes de l'avenue de la pharmacie à Barumbu ne sont pas les seuls à fêter la bonne année. Un peu plus tôt, ce 1er janvier 2005, sur le boulevard du 30 juin, place Braconnier, les feux d'artifice sont projetés. Il est 1h du matin, passé de 50 minutes, quand se passe cet événement. Le concert de Papa Wemba commencé 1h30 auparavant s'arrête pour permettre à la population de contempler le spectacle de couleurs dans le ciel.
C'est pour dire qu'on passe d'abord vers une nouvelle année. Et si ceci peut être un signe de nouvelles choses dans le pays, et ben voilà, que ça continue et que félicitations à ceux qui ont eu l'idée d'organiser cela et que l'année prochaine il fasse encore mieux.
C'est beau à voir, hein, tellement une grande journée comme celle-ci. En tout cas, c'est vraiment en exclusivité parce que moi, ici comme Soussou, c'est ça les Maratais, mais nous avons eu quand même cette chance-là pour mon ami Loaboué. Donc, c'est une joie pour nous.
Joyeux à l'angoporto, si si fait la rien là, bah surprise à boule. Ils avaient bien tapé ces mercenaires au gouvernement, mais bah qui peut plus bisou, hein. Oh, on se baisse plus, bah quand ça nous a bien que tout souffrir.
Sans commentaire. Sans commentaire aussi, cet autre paradoxe, observé ce même jour à l'hôtel des postes communément appelé Grande Poste. Il est 1h40. Nous rencontrons des gens, adultes, hommes et femmes, couchés à même le sol à l'entrée, mais aussi dans le hall de l'hôtel des postes. Mais qui sont ces gens? Combien sont-ils et que veulent-ils?
Comme on a eu papa Seka, na sala qui n'a pas ça, t'es na zui retraite, la qui si qui n'a zali moto, na t'es la qui est li qui a na société. Mais société, en tout cas, je regrette beaucoup, na bisou nyo so basali, au sepete, le lo baninga bazana ba foye na bango et sika moko, mais bisou toza ko telenga na awa. Suite ya, ma promesse, oyo e komi erastique, to yela ki a wapo an a besoin na bisou te, mais au fils moto apesa ki, ta. Que beaucoup soit salaire, beaucoup soit paix, ration pour la nouvelle an 2005.
Est-ce que vous avez Yango?
Et là, comment vous avez utilisé?
Nombre d'habitants, vous avez à peu près combien?
Vous avez plus de 400 personnes et autres, l'alia.
Mais vous avez l'alia pour la nuit?
Vous avez le transport. Tozangi les en tout, ce qui fait deux ans d'abisso, Tozini et là, comment vous avez
utilisé? Là, il y a un salaire à te mettre au bal, il y a un salaire à. Le moment où on a le bambal, il y a un malade, il y a un dame. Bon, le quoi va se faire que boya boya va refouter moi bon depuis mercredi la bande ko ya aw songi na yena songi na yena songi lobby de vendredi ba bio ba opesa mbon ndé le quoi na ya kilisusu na 59 mois impayé au mbongo e kota ka aw e kenda ntiela nini.
Ce genre de paradoxe a été observé ce jour-là dans plus d'un endroit à Kinshasa. Ce paradoxe a sans doute été observé ailleurs aussi en République démocratique du Congo, peut-être aussi à travers le monde. Mais, nombreux parmi les personnes interrogées ces jours-ci sur cette situation pensent que ces situations de dénuement de la population et l'indifférence des dirigeants révoltent certes, mais ne tuent pas l'espoir tant qu'il y a encore la vie.
Bonne année! Bonne année!
Et voilà, ça s'est passé comme ça pour certaines personnes, pour d'autres, vous avez noté cette réalité, malheureusement aussi bien positive que négative, mais réalité. Voilà, nous allons continuer à aborder cette question pour les restes des minutes dans ce magazine. Vous pouvez peut-être nous faire un coup de fil, non, pour nous dire comment vous avez passé cette bonne année chez vous. Il suffit de raconter à moi ce que vous avez vu de bon, ce que vous avez vu de positif, ce que vous souhaitez qu'il soit amélioré pour que les prochains jours soient meilleurs, que la fête ait son sens, parce qu'on y a droit. Parce que même dans le Côte du Monde où il y a eu la plus grande catastrophe à cette fin d'année, je parle de la partie autour de l'Indonésie, ils ont eu des moments pieux, ils avaient des bougies allumées, notamment en faveur de toutes les victimes, en ayant une pensée pieuse vers les victimes de cette marée qui est partie d'un séisme dans l'océan Indien. Ils se sont retrouvés avec des lumières. C'était ça aussi une façon pour eux de célébrer ce jour-là. Et vous, hein, à Kinshasa, à travers toute la RDC, Mbandaka, Bumba, Kisangani, Kindu, Kananga, Kayamba, Kikuit, partout aussi loin que les ondes peuvent nous amener, pouvez nous dire ce que vous avez fait des bons et ce que vous avez fait surtout comme vœu, ce que vous avez pris comme décision pour 2005 qui a commencé, on est au troisième jour, aujourd'hui la 9e heure, passée de 13 minutes. Et voilà, au KPI Action, nous vous parlions, nous vous faisions un feedback de ce qu'ont été les journées de fête. Particulièrement à Kinshasa, vous avez pu observer par moments à quatre endroits différents de la ville de Kinshasa des fêtes, des concerts, c'est parti de là, et puis par moments la nuit, on pouvait apercevoir, c'est ce que j'allais dire, dans le ciel de Kinshasa, des feux d'artifice dans la ville et les gens pouvaient se demander qui est-ce qui a fait ça, ça vient d'où. Nous avons en studio maintenant Monsieur Jacques Martini. Jacques Martini, bonjour.
Bonjour.
Vous venez en studio pour nous parler de, pour nous expliquer comment ça se fait que la Saint-Sylvestre, notamment le 31 décembre, on a vu des feux d'artifice à au moins 4 endroits différents de Kinshasa.
Et on a essayé de les faire justement à 4 endroits différents, mais à des moments différents, de manière à ce que presque pendant toute la nuit, disons au moins de 1h du matin jusqu'à 3h du matin, le ciel de Kinshasa soit illuminé. Ce sont des fêtes qui n'ont pas plus lieu depuis très longtemps, et la brasserie Bracongo a essayé de redonner un cachet supplémentaire à la fête du réveillon.
Lorsque on fait des feux d'artifice, ça a quelle importance pour vous?
Le feu d'artifice, c'est un spectacle qui se donne. Moi, je m'estime metteur en scène et mes artistes sont de l'artifice. Car ce qu'il faut, c'est que ça soit majestueux, que ça permette aux gens d'être éblouis, d'oublier leurs problèmes et de donner un cachet supplémentaire de fête. Et c'est grâce à ça. Nous avons pu le réaliser, je dis grâce à la brasserie Bracongo et à Skol, qui a fait, et grâce à M. Leclerc, l'ADG, et c'est grâce à eux qu'on a pu faire quelque chose de grandiose, qui n'a plus eu lieu depuis plusieurs années. C'est-à-dire, c'est la troisième fois que M. Leclerc et la brasserie Bracongo l'organisent. Mm-hmm. Ils l'ont organisé l'année passée au Stade des Martyrs.
Au boulevard Triomphal.
Ils l'ont organisé une deuxième fois pour le 30 juin pour la fête nationale. Mmh, mmh. Celui qui avait été organisé la première fois, c'était pour l'unité du Congo. C'est grâce au président Kabila qui essaie de réorganiser et de refaire l'unité du Congo.
Avec tous les acteurs,
et de faire quelque chose quand même de grandiose et de montrer... de donner au peuple quelque chose, un cachet supplémentaire.
Alors, vous étiez dans la foule, évidemment, en train d'orchestrer à quel moment précis il faut demander à peut-être un de vos assistants de dire « Allez, appuie maintenant sur le bouton ». C'est à quel moment précisément qu'il fallait lancer le feu d'artifice?
La première idée était de faire les 4 feux en même temps. Mm. Si on faisait les 4 feux en même temps, c'était un spectacle pour tout le monde. Alors, nous avons essayé de faire un spectacle à des moments différents pour que le peuple partout où il se trouvait, avait la possibilité de le voir. Mm-hmm. Le dernier feu a eu lieu à l'IPD, c'est ça? L'Institut? haut, et un très grand feu qui a clôturé...
À l'IPN?
L'IPN, pardon.
Voilà. L'Institut pédagogique national sur les collines des Galions.
Et là, c'est le dernier feu qui était le plus grand et qui permettait partout de voir. Mais on a essayé de... Cette fois-ci, la brasserie Bracongo ne voulait plus le faire au Stade des Martyrs.
Pourquoi?
Parce que le Stade des Martyrs centralisait une partie du peuple. On a voulu pouvoir donner la possibilité à d'autres personnes de voir ce spectacle. À des quartiers comme le quartier du marché, où ils n'ont jamais de fête, où il n'y a rien du tout, on a voulu leur donner la possibilité de pouvoir faire la fête comme les autres. Ça ne devait pas être réservé à un quartier uniquement, un quartier où il y a peut-être plus de possibilités de venir. Ça devait donner la possibilité à tout le monde de voir ça. Ça, c'était l'idée de M. Leclerc de la brasserie Bracongo.
Alors, on a vu il y avait un groupe qui était au niveau de la gare centrale,
oui.
Et évidemment que
c'était moi-même, c'était le quartier général.
Ah, c'était le QG.
C'était le QG.
Tout
oui.
Partait de là.
Tout partait de là au départ.
Et lorsque les feux d'artifice étaient lancés,
oui.
Comment réagissait le public autour?
Oh, ils étaient impressionnés, mais bon, le feu d'artifice c'est de la magie. C'est pas compliqué. À l'autre site, au marché, on a mon homme, mon tireur, on a dit que c'était un doki. Pour vous dire, parce que ça permet, c'est l'émerveillement, c'est des choses que les gens n'ont plus vues depuis 20 ans. Et on leur donne la possibilité de revoir.
Avez-vous l'idée de l'impact psychologique d'observer ces genres de choses extraordinaires?
Moi-même, je suis encore ébloui avec ça. Moi-même, je suis ébloui. Oh. C'est vraiment pendant un quart d'heure, 20 minutes, les gens voient de l'émerveillement, oublient leurs problèmes, oublient leurs soucis. Et ça, ça c'est magnifique. C'est comme quand vous allez voir un spectacle magnifique, vous oubliez votre souci. Les quatre méga concerts qui ont été organisés par la brasserie Bracongo, c'était pour permettre au peuple à des endroits qui n'ont jamais rien. Parce que bon, au marché, entre autres, il n'y a jamais rien qui se passe. Et la brasserie Bracongo, eux, veulent essayer de donner à tout le monde la possibilité d'avoir quelque chose, justement.
Jacques Martelly, je vais vous demander de mettre vos casques, oui. Parce que nous allons prendre en ligne le gouverneur de la ville de Kinshasa. Oui. Monsieur Jean Kimbunda, bonjour.
Oui, bonjour, Radio Okapi.
Bonne année, monsieur le gouverneur.
Bonne année, Radio Okapi.
Bon, alors, on a vu, on est en train d'en parler d'ailleurs avec Jacques Martelly, vous dites bonjour,
oui,
bonne année
bonjour,
au gouverneur.
Monsieur, bonne année, monsieur le gouverneur, enchanté de vous connaître.
Bonne année, enchanté, monsieur Jacques Martelly.
Mais voilà, c'est Jacques Martelly qui était, si vous voulez, le metteur en scène des quatre feux d'artifice qu'on a observés à la Saint-Sylvestre à travers Kinshasa. Monsieur le gouverneur de la ville, comment avez-vous apprécié cette initiative?
Bien, disons que l'initiative pour le gouverneur que je suis n'est pas tombée comme un cheveu dans la soupe. C'est depuis près de 3 mois que la société Bracongo a formulé une requête auprès de l'autorité urbaine pour l'organisation de ces feux d'artifice. Et nous avons pensé avec la haute autorité du pays, qui est le chef de l'État, qu'il fallait bien que les Kinois puissent fêter la bonne année, comme nous le disons. Et c'est tout à fait normal que nous puissions accorder les autorisations voulues pour que, après tout ce qui se passe dans le pays, notamment à l'Est, que nous puissions prendre le temps de fêter, de nous réjouir et d'oublier un peu tout ce qui se passe à l'Est du pays. Et cela fait que vous aurez constaté que pendant les fêtes, c'est toute la population de la ville de Kinshasa qui réellement a fêté.
Oui, beaucoup de gens ont fêté, certes, mais il y en a d'autres qui ont dit qu'ils n'ont pas fêté pour des raisons sociales, pour des salaires impayés. Mais c'est pas à vous de répondre à cette question de façon générale. Mais en ce qui concerne le personnel de l'hôtel de ville, est-ce qu'ils ont fêté, monsieur le gouverneur?
J'aurais voulu que vous puissiez appeler le personnel de l'hôtel de ville. Je pense que des coups de fil que j'ai reçus, il s'avère que pour la première fois à l'hôtel de ville, il y a eu un colis de fin d'année après que nous ayons apuré tous les arriérés des salaires totalement. Et l'hôtel de ville va reprendre ce matin avec des comptes bien équilibrés et tout le monde est dans la joie de commencer l'année 2005 comme il se doit.
Monsieur le gouverneur, oui, Jacques Martelly.
Oui, je voudrais bien remercier monsieur le gouverneur et toutes les autorités pour la collaboration qu'ils nous ont donnée pour la sécurité. Car sans ça, ça aurait été un très gros problème. Je vous remercie encore infiniment.
Voilà, monsieur le gouverneur, une réaction à ces remerciements?
Oui, je pense que j'aimerais me réjouir d'abord du fait de la discipline que l'on a observée dans la ville. Il y a eu certains dispositifs sécuritaires importants qui a été mis en place pour garantir la sécurisation de nos populations, mais aussi les Kinois se sont retournés vers la fête et il n'y avait que la fête dans leur tête. Oui. Et c'est cela qui est plus important. Vous aurez constaté qu'en termes de bilan, il y a eu au total 6 cas d'accident, dont un cas qui était malheureux, où on a déploré des morts sur la route du Bas-Congo à l'entrée de Kinshasa. Et pour le reste, c'était certainement des gens qui ont dû prendre un verre de trop. Et nous essayerons à l'avenir d'améliorer notre dispositif de sécurité pour éviter que des gens qui ont pris un verre de trop soient au volant.
Parce que
c'est des choses que nous déplorons.
Oui, puisque vous en parlez, monsieur le gouverneur, peut-être d'ici là que toutes les informations puissent être recoupées, parce que ça continue à tomber. Nous avons aussi certains chiffres qu'il faut être à de de quelques accidents, notamment des circulations enregistrées pendant les deux jours de fête, pour coupler les deux jours de fête à Kinshasa. Le plus meurtrier qui est celui survenu vendredi soir au niveau de l'Ipen, qui a fait 5 morts, dont 2 femmes. Mais d'autres accidents n'ont causé que des dégâts matériels. Parmi les causes, vous l'avez dit vous-même, monsieur le gouverneur, à bonne place, l'ivresse au volant et l'excès de vitesse, et la police spéciale du roulage qui estime néanmoins que les dégâts sont moins élevés que ceux enregistrés à la même période les années précédentes. C'est un commandant de la police spéciale du roulage qui a donné quelques explications à ce sujet. Alors la question que nous vous posons, qu'est-ce qui va être fait pour empêcher qu'il y ait des accidents comme ça? Nous, on n'a pas vu une campagne contre l'ivresse au volant, monsieur le gouverneur.
Il est un fait qu'on ne l'a pas fait pendant cette fin d'année, mais vous vous souviendrez qu'en début d'année déjà, il y avait une campagne sur les accidents qui était d'ailleurs organisée sous l'égide de l'OMS. Et nous pensons que ce sont des messages comme cela vulgarisés à l'occasion des manifestations comme les fêtes de fin d'année et d'autres manifestations du genre, que nous allons devoir davantage vulgariser en mettant un accent particulier sur l'ivresse. Il faut faire attention à l'ivresse lorsqu'on est au volant, et ce pour le bien de la population, ce pour le bien de l'autorité urbaine, et je pense que ce pour le bien de nous tous. Il y a un autre cas d'accident que nous venons de déplorer cette nuit, ce qui a eu toujours dans le cas de l'ivresse. Deux individus qui ont pris un verre de trop et qui se sont enfermés dans un conteneur à l'IPN, allumant ainsi une bougie à l'intérieur, et le conteneur a brûlé la nuit, donc les deux personnes ont été calcinées. Mmh. Et ça, c'est très malheureux. Je pense que en ce mois de janvier, nous allons lancer l'opération Kinbopeto en direction de la commune de Ngaliema. Et nous allons évacuer tous ces conteneurs, toutes les bâtisses qui sont au marché de l'IPN et qui ne font pas la fierté de notre ville.
Voilà, monsieur le gouverneur, je vais vous proposer à vous et à Jacques Martini, qui nous sommes ensemble en studio. En fait, moi, c'est Walter Molondi, je ne me suis pas présenté. Les auditeurs le savaient déjà, mais vous ne le saviez pas. On va écouter un auditeur qui réagit sur comment il a vu passer les fêtes.
Oui, bon, je dis que c'est bien de décorer la ville de Kinshasa à l'occasion de la Bonana, mais notre souhait, ce serait que cela puisse continuer et que ça s'oriente beaucoup plus vers l'assainissement de la ville et que notre ville soit plus propre, quoi. Bon, c'est ça mon souhait. Le nom, c'est Annie, que j'appelle depuis Bukavu.
Voilà, monsieur le gouverneur, une auditrice de Bukavu à 2000 km d'ici qui souhaite beaucoup plus de choses, la propreté d'abord et puis la fête ensuite.
C'est très bien, c'est le souci de l'autorité urbaine de tout le jour. Nous n'avons pas attendu les fêtes pour mettre en place l'opération Kinbopeto, et nous pensons que cette année, elle va davantage s'amplifier, elle va être plus importante, et nous allons faire adhérer à l'opération l'ensemble de la population de la ville de Kinshasa.
Même de la ville de Bukavu, parce qu'en fait, Radio Okapi est captée partout là-bas à travers la RDC. Ceci justifie l'appel de cette auditrice de Bukavu. Pour revenir à Kinshasa, monsieur le gouverneur, une question de Robert Nsimba. Voilà, voici sa question. Monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui explique l'inobservance de la réglementation sur les pétards? Il me semble, écrit Robert Nsimba, que vous, monsieur le gouverneur Jean Kimbunda, vous avez interdit l'utilisation des pétards. Et Robert Simba constate qu'à la grande surprise de tous les gens, tout le monde continue à utiliser les pétards à Kinshasa.
Il est un fait que nous avons interdit les pétards, leur utilisation, leur commercialisation, bien avant les fêtes. Mais à l'approche des fêtes, vous savez, qui détient les pétards finalement? Ce sont nos enfants dans nos maisons. Et les parents sont les premiers responsables. Qui doivent surveiller, qui doivent contrôler que les enfants ne puissent pas faire usage de cet engin, de cet équipement qui est le pétard, avec tous les risques que cela comporte. Vous savez que sous d'autres cieux, pendant les fêtes, à la suite d'utilisation de pétards, il y a eu des incendies en Argentine qui ont provoqué même jusqu'à 179 morts dans une boîte de nuit. Donc je considère que nous devons davantage être plus regardants et plus consciencieux de la chose, Et pour les temps à venir, nous allons interdire et faire accompagner cette interdiction des mesures d'accompagnement qui feront que de moins en moins nos enfants puissent faire usage des pétards.
Monsieur le gouverneur, nous avons parlé plutôt de la façon dont les fêtes se sont déroulées à Kinshasa, mais en parlant, vous avez glissé un mot par rapport à l'opération Kinbopeto. Nous espérons que cette fois-ci, en 2005, vous serez disposé à venir en direct avec nous en studio pour qu'ensemble, avec les auditeurs de tous les Congos et du monde, parce qu'au Capi, c'est dans le monde aussi, en direct, sur Internet, que vous puissiez échanger avec nos nombreux auditeurs sur la façon dont ça se fait, parce qu'on constate que, c'est vrai, si sur certains artères principaux, Kinbopeto, c'est visible, mais dans la première avenue derrière, les grandes avenues, on se pose des questions. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était juste pour vous demander solennellement et officiellement, et en prenant tous les auditeurs en témoin, que vous serez prêt à venir chez nous, monsieur le gouverneur.
Je m'engage à le faire, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup. Un mot de revoir, Jacques Martini. Merci d'être venu.
Oui, mais le problème des pétards, je m'excuse de vous en parler éventuellement, oui, si je peux en parler. Le problème des pétards existe dans tous les pays. Parce qu'actuellement, je vais prendre comme pays les voisins de la Belgique, c'est-à-dire la Hollande, où ils ont fait des interdictions de pétards. Ils vont les acheter en fraude, ils les ramènent en fraude et le jour du réveillon, tout le monde, sans exception, fait des pétards, les plus gros possibles, ce qui provoque chaque année d'énormes des accidents. Et je ne sais pas si monsieur le gouverneur aura la possibilité d'interdire totalement, parce que le jour du réveillon, c'est la fête, tout le monde est occupé, la sécurité ne sait pas être partout en même temps. Et c'est ce jour-là que les gens vont sortir les pétards. Je crois que le mieux, ça ne serait pas spécialement d'interdire, ça serait plutôt de leur expliquer comment l'utiliser. Parce que vous savez que des tout petits pétards d'un centimètre, qui sont des bêtes petits pétards, qui ne font rien du tout, si on les laisse dans la poche, rien qu'avec le courant statique, peuvent exploser. Vous voyez, on ne se rend pas compte de tout ça. Et je crois que le mieux, ça serait plutôt d'instruire les gens, plutôt que d'interdire. L'interdiction, ça provoque plutôt la fraude.
Monsieur le gouverneur, comment réagissez-vous à cette expérience de Monsieur Jacques Martini qui a parlé d'un pays européen, notamment à côté de la Belgique?
Oui, je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de sources d'approvisionnement en pétards. Nous ne sommes pas fabricants de pétards, nous avons des producteurs, nous avons des importateurs, ceux-là même qui déversent les pétards sur notre marché. Et en interdisant, nous pensons nous le faire beaucoup plus en amont qu'à l'intérieur, jusqu'à vider ce stock-là, et cela est encore faisable et mieux contrôlable. Et ça c'est une chose. Une deuxième chose, ce que l'interdiction nécessite une volonté commune, et la volonté de l'ensemble de la population de pouvoir interdire cet équipement-là. Parce qu'aujourd'hui, former les gens à l'utilisation des pétards signifierait que nous allons consacrer cette utilisation, non pas en termes d'interdiction, mais plutôt en termes d'usage tout à fait courant, mais le maintien ou le risque que cela comporte est beaucoup plus important que la vulgarisation même de l'utilisation de pétards. Entre les deux, je pense que je choisirai et je maintiendrai l'interdiction.
Voilà, monsieur le gouverneur, je soumets à votre appréciation la réaction de nos auditeurs. Ils sont nombreux, ils ne veulent pas vous lâcher.
Je m'appelle monsieur Désiré, je suis cadre ministère du plan. Je voulais profiter de l'occasion, comme le gouverneur est en ligne, lui poser la question de savoir l'opération Kin Propreté a payé de l'envergure, ce voyage, c'est bien, nous sommes tous contents et nous encourageons d'ailleurs le gouverneur pour cette initiative. Nous le soutenons d'ailleurs jusqu'à ce que ça prenne vraiment son effectivité. Mais alors, quels sont les mécanismes? Posez-moi au gouverneur cette question, quels sont les mécanismes de suivi? Parce que nous avons vu que partout où il le passait, on a enlevé les conteneurs, mais il y a d'autres opérations qui reviennent, d'autres effets, les parapluies, les effets parapluies étalage. Par exemple, à Kitamo Magasin, c'est vraiment désolant de voir un centre comme Kitamo Magasin. C'est l'entrée même de la présidence, c'est l'entrée de la ville, mais c'est devenu encore trop sale et même plus sale qu'avant.
Monsieur le gouverneur, comment réagissez-vous?
Oui, je pense que le premier résultat de l'opération Kimbopeto est d'abord de mobiliser les populations de la ville de Kinshasa à comprendre le chaos et l'anarchie qui ont érigé domicile dans notre ville. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous avons pu atteindre le résultat escompté. Et le deuxième, c'est que nous aimerions donner une visibilité à notre ville avant de commencer d'autres travaux d'aménagement qui conduiraient à l'embellissement. Il y a certes des récidivistes qui reviennent sous d'autres formes, mais nous pensons qu'au mois de janvier, avec la nouvelle politique que nous venons de mettre en place, c'est-à-dire que c'est chaque bourgmestre dans sa commune, les communes qui ont déjà été visitées par l'opération Kimbopeto, ce sont donc ces bourgmestres-là, disais-je, qui vont devoir prendre le relais. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous considérons la commune comme celle de Kitambo, étant donné que l'auditeur en ligne en parle, c'est le bourgmestre de Kitambo qui devra proposer les aménagements nécessaires et la ville et bien sûr le gouvernement mettra ainsi des moyens qui vont aller jusque dans la caisse de la commune pour ce faire. Il ne reviendra pas au bourgmestre, au gouverneur de la ville plutôt, de réaliser les aménagements nécessaires au niveau de chaque commune. Donc voilà un peu comment nous comptons faire le suivi de l'opération Kimbopeto dans les différentes communes.
Voilà.
Pour celles qui n'ont pas encore été visitées,
oui.
Nous, à partir du 15 janvier, nous serons déjà dans la commune d'Engaliema, comme nous le disions, et là, nous allons agir de la même manière que nous l'avons fait dans d'autres communes, et entre-temps, les bourgmestres des communes visitées mettront en place, avec les brigades d'assainissement qui vont faire une formation de 2 semaines, pour être mise sur chantier, pour être mise sur terrain, et les brigades d'assainissement vont devoir s'occuper de l'aménagement, des travaux au quotidien de propriété dans nos différentes communes.
Voilà, monsieur le gouverneur, vous vous rendez compte que c'est très important que vous soyez un jour en direct dans nos studios. Alors, merci beaucoup encore une fois, bonne année, plein succès pour 2005 pour la ville de Kinshasa, pour d'autres villes dont le gouverneur nous a entendu aussi. Monsieur Jacques Martini, merci d'être venu, oui. On doit clôturer.
Oui, d'accord, alors. Mais bon, je tiens à remercier quand même encore monsieur le gouverneur pour, oui, la collaboration qu'on a eue, mm-hmm, et je sais que la brasserie Bracongo envisage encore de faire d'autres actions avec la collaboration du gouvernement pour essayer d'améliorer la vie des Congolais.
Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Bonne journée, au revoir.
Merci, au revoir, monsieur.
Voilà. 2005, c'est bien parti, hein, avec ces sonorités entre les traditions, le modernisme musical, évidemment. C'est pas mal. C'était Papa Wemba, ça, non? Hein, Willem Lungamba, le Viva la Musica. Voilà, super. On est d'accord avec Willem qui me dit affirmatif. Voilà, la voix de Gare qui nous commande, qui monte les micros et qui fait tout partir parce que sans lui, vous ne savez pas nous capter. Bonne année en passant, Willem, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Merci. Voilà, des milliers d'enfants ne vivent plus avec leurs parents. Parmi eux, des orphelins de père et de mère. D'autres sont tout simplement abandonnés parce qu'ils viennent des familles très démunies, incapables de les prendre en charge. Conséquence, regardez maintenant peut-être dans les rues autour de vous. Vous verrez quelques-uns de ces enfants. Ils courent la rue à la recherche de la survie. Certains orphelins sont très tôt recueillis dans les orphelinats, mais pour combien de temps? Difficile à dire. En effet, dans bien des cas, des orphelins finissent par quitter ce cadre. Ils doivent céder la place à des plus petits, à des nouveaux arrivés. Et malheureusement, certains orphelinats n'ont pas le moyen d'accueillir autant d'enfants. Vous pouvez leur donner une chance, une seconde chance pour 2005 qui commence déjà. Vous pouvez les adopter. Allez visiter un orphelinat, redonner la vie des orphelins, redorer aussi leur vie. Nicole Ngaka, bonne année.
Bonne année, Walter Mbairindi.
Alors, vous avez visité un orphelinat, non pas pour adopter un enfant, mais vous nous direz ce que vous aurez décidé après la visite que vous y avez faite. Vous avez, si vous avez, oui ou non, décidé de repêcher un orphelin, précisons que vous êtes parti visiter un orphelinat pour un reportage sur la procédure d'adoption à partir d'un orphelinat. La première question, c'est quel constat avez-vous fait lorsque vous êtes rendu dans un orphelinat de Kinshasa?
Oui, Walter m'a posé deux questions. Je réponds d'abord à la première.
À la première, vous avez décidé.
Oui, en fait, tu sais, vous savez, Walter, ça m'a effleuré, hein, en fait, d'adopter un enfant. Je pense que je vais encore y réfléchir. Oui, je vais encore y réfléchir.
Alors, c'est dans le pipeline, on se serre les doigts pour ces gens.
Vraiment. Alors, pour répondre à la deuxième question, je précise d'abord que je me suis rendue dans un orphelinat que peu de gens connaissent, certainement ici, à Kinshasa, puisque c'est plutôt discret, hein, le cadre. C'est juste en face de la RTNC. Cet orphelinat s'appelle l'orphelinat du Grand Pardon. Et là, j'ai rencontré 23 charmants petits garçons âgés de 8 à 12 ans. Si je ne me trompe pas, ces enfants sont élevés par une charmante dame de nationalité suisse, Madame Kina Jeanne, qui d'ailleurs est en train de leur préparer ce jour-là, parce que je me suis rendue un 31 décembre, elle est en train de leur préparer un repas de fête. Et bref, ça c'était donc une parenthèse. Alors pour répondre maintenant à votre question précisément, Walter, j'ai été frappée de voir que ces enfants, malgré qu'ils sont orphelins, malgré qu'ils sont, certains aussi sont abandonnés carrément par leurs parents, faute de moyens, je dirais, consistants pour les nourrir. Ces enfants sont très très charmants. On pourrait même croire qu'ils sont frères, tellement ils avaient l'air épanouis. Et pourtant, Walter, ils viennent tous de familles différentes.
Vous avez dit des mots qui rapprochent du bonheur. Comment peuvent-ils être heureux alors qu'ils ont été abandonnés par leurs parents?
C'est vrai. Mais lorsqu'on les voit, on est tout de suite séduit. On a vraiment du mal à croire qu'ils sont orphelins.
Alors, puisque nous parlons de l'adoption, Nicole, et que ce sont des enfants tout à fait charmants, selon ce que vous avez observé, parce que vous y avez été, en parlant avec les responsables, est-ce qu'ils vous ont dit peut-être s'ils reçoivent ou pas des demandes d'adoption?
Malheureusement, ils n'en reçoivent pas. Moi, je pense que c'est peut-être parce que l'orphelinat est d'abord dans un cadre plutôt discret, mais aussi parce que les gens ne sont pas informés. Et je pense que l'information devrait plus circuler, Walter.
Alors, faire circuler l'information, c'est ce que nous faisons, c'est notre métier d'ailleurs, notre vocation. Comment procéder si l'on veut adopter un enfant à partir, prenons le cas précis de l'orphelinat du Grand Pardon?
Voilà, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, je préfère vous laisser suivre la réponse du cofondateur de cet orphelinat.
Bon, c'est un problème, c'est grave, mais ce qui m'a dit, c'est que je suis adopté dans l'orphelinat. Bon, c'est ça, mais c'est possible, c'est un accord avec le gouvernement, c'est un document, c'est un droit de faire adopter moi. Mais à passer à la direction, na orphelinat et puis bisoto ko guider ndeni ako sala pour na adopter mwana.
Alors le soi mutu alingi a adopté mwana. Est-ce que esengili ke afutala lo ba mbongo pour ya kozwa mwana na?
Bon, pour le moment vraiment moi na répondre yo bien la question exacte, je vais me renseigner na direction ya dispe.
Monsieur parle de dispé, Nicole, de quoi s'agit-il pour nous et pour les auditeurs?
En fait, Walter, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des structures qui s'occupent de l'encadrement et de la prise en charge des enfants travaillent en partenariat avec le ministère des Affaires sociales. Raison pour laquelle la direction, en fait c'est ça, la dispé, la direction d'intervention et de protection de l'enfant, qui est une des structures du ministère des Affaires sociales, propose à cet orphelinat la prise en charge de certains enfants que eux récupèrent à leur niveau.
Voilà, donc on comprend que c'est une direction au niveau du ministère des Affaires sociales. Comment ça fonctionne ou quelle est la procédure, si vous voulez, au niveau du ministère des Affaires sociales en ce qui concerne toutes ces structures pour adopter un enfant?
Nous avons abordé cette question-là avec l'un des responsables de la direction d'intervention et de protection de l'enfant. Je vous laisse suivre sa réponse.
Donc, les cas d'adoption d'un enfant, on doit passer d'abord par les enquêtes sociales.
C'est-à-dire?
Alors, les enquêtes sociales, c'est-à-dire, nous avons des services spécialisés, ce qu'on appelle des services techniques. Dans chaque province, nous avons une division provinciale du ministère des Affaires sociales. Mais au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons aussi la division urbaine des Affaires sociales. Donc, cette division s'occupe des cas d'adoption. Alors, au niveau de cette division, il y a un bureau qu'on appelle le bureau de l'action sociale. Ce bureau regorge des assistants sociaux, des enquêteurs sociaux. C'est là ils vont mener les enquêtes.
À quel niveau?
Au niveau de la famille qui veut adopter l'enfant. Il faut mener les enquêtes pour voir si cette famille a des revenus, si cette famille était apte à adopter un enfant. Puisqu'on ne peut pas faire adopter un enfant dans une famille d'un indigent ou quelqu'un qui est démuni. Donc on suppose que la famille a des moyens, a des possibilités. Lorsque l'enquête va aboutir, maintenant on fait un rapport. Après le rapport, maintenant, on établit maintenant le... On entend maintenant la fameuse procédure d'adoption de l'enfant au niveau de la division urbaine. Voici ce que je sais.
Alors, tout ça, toutes ces démarches, est-ce que ça nécessite une certaine somme d'argent, des frais?
En tout cas, ça, là, il faudrait maintenant vraiment vous rendre sur place pour les services techniques. Mais, à ce que je sache, il n'y a pas de frais. Mais il peut y avoir des petits frais. On appelle ça des frais administratifs. Hein. Il y a une question de papier, tout ça, de fourniture des bureaux. Mais sinon, il n'y a pas. Chez nous, nous n'avons pas un service de taxes. Nous n'avons pas de taxes chez nous aux affaires sociales.
Voilà déjà quelques mots par rapport à cette procédure, ce qu'on a compris, ce qu'on peut adopter un enfant sans passer au préalable par le ministère des Affaires sociales. Mais ce qui pourrait prêter à confusion, c'est savoir si c'est le ministère ou cette division du ministère ou de la division. Est-ce que c'est eux qui décident de l'adoption ou du choix de l'enfant? Comment les autorisations sont-elles accordées, Nicole?
C'est vrai que Walter, on peut croire que c'est cette division qui décide du choix de l'adoption d'un enfant, mais il n'en est absolument rien. La démarche au niveau du ministère vient en deuxième lieu. Suivez une fois de plus l'entretien que nous avons eu avec M. Moussato Kapanzi, qui est en fait l'assistant social de formation, chef de division à la direction des interventions sociales pour la protection de l'enfance.
Le choix de l'enfant dépend de la personne qui demanderait. La personne peut choisir son enfant et dit qu'écoutez, moi je vais adopter l'enfant de tel âge. Je voudrais adopter telle catégorie d'enfant, une fillette ou un garçon. Alors maintenant, lorsque la personne demanderait va pointer l'enfant que cette personne va adopter, maintenant il faudrait passer par cette procédure.
Quel âge?
Donc cette procédure est incontournable.
Alors est-ce que jusque-là, au niveau de la division urbaine, il y a eu des cas d'adoption?
Parce que je sais qu'il y a eu plusieurs cas d'adoption au niveau de la division urbaine, puisque je sais que... Moi, je suis inspecteur urbain de la ville de Kinshasa, des affaires sociales. Il y a eu des cas d'adoption. Donc, vous devez vous rendre au niveau de la division urbaine des affaires sociales, sur le 11 numéro 1, la commune de Kassavov.
Voilà l'adresse de la division. Il faut y aller pour avoir beaucoup plus d'informations. Donc, on identifie un orphelinat, des enfants qui ont besoin d'être adoptés, mais il faut suivre la procédure au niveau de l'État et la division se trouve sur l'OSI numéro 1 pour avoir des plus amples détails. Mais on sait, c'est une procédure incontournable, comme on l'a entendu tout à l'heure, de la bouche des responsables de l'État, mais on voudrait savoir s'il n'y a pas des déboursements de fonds parce que l'administration telle que ça fonctionne, ça peut être des inquiétudes qu'on peut payer beaucoup d'argent pour adopter l'enfant.
C'est vrai qu'on peut payer beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi nous sommes rendus nous-mêmes aussi là-bas, sur l'avenue Louis numéro 1. Mais on a été là-bas par téléphone parce qu'on a joint Mme Penetembe, qui est en fait le chef de division urbaine de Kinshasa. Elle nous a précisé que les gens adoptent les enfants ici à Kinshasa, mais ce sont plus des étrangers que des Congolais. Et autre précision que Mme Penetembe a apportée, c'est que à leur niveau, ils ne donnent qu'une autorisation provisoire en attendant que la famille se mette en contact avec un avocat qui s'occupera de tout ce qui est juridique. Mais elle n'a pas précisé, Walter, si c'était gratuit ou pas.
Mais vous parlez d'un avocat, voilà, un troisième personnage qui intervient dans cette procédure. Il y a l'enfant, il y a la personne demanderesse qui veut adopter, il y a le ministère des Affaires sociales, un autre personnage qui s'ajoute, un avocat. Ça veut laisser sous-entendre qu'il y a des avocats spécialisés en la matière. Est-ce que vous en avez rencontré quelques-uns?
Tout à fait, Walter. Nous avons pu joindre Maître Anthony. Maître Anthony, lui, il est expert dans les questions d'adoption et directeur de l'Observatoire congolais des droits humains. Lui, il nous a expliqué quelque peu la procédure juridique et je vous propose du reste de suivre l'entretien que nous avons eu avec lui.
Beaucoup de cas que j'ai reçus, ce sont des cas des orphelins qui ont été adoptés. Vous savez, généralement, chez nous au Congo, on n'adopte pas tellement des enfants abandonnés. Hein. C'est généralement la famille qui s'en occupe. Alors, c'est souvent les étrangers qui adoptent des orphelins. Et généralement, je leur conseille simplement, je crois que c'est d'ailleurs c'est la meilleure des procédures, d'adopter un orphelin et de
se... Donc ils vont dans les orphelinats pour trouver un orphelin.
Oui, pour trouver un orphelinat.
Et jusque-là, vous avez déjà eu à aborder, je dirais, ce genre de questions avec beaucoup de couples ici au Congo?
Oui. Il y a surtout beaucoup d'étrangers qui adoptent des Congolais, des enfants congolais. Oui, tout à fait.
Mais les Congolais n'adoptent pas les enfants?
Non, jusque-là, je n'ai pas encore eu à faire une procédure pour un Congolais, non, malheureusement.
Et est-ce qu'il faut débourser une certaine somme d'argent pour le faire?
Oui, ça coûte quand même assez cher. Malheureusement, chez nous, ça coûte quand même assez cher. Je ne pourrais pas tellement chiffrer, puisque cela dépend d'un enfant à un autre. Puisqu'il y a des emplois qu'on peut trouver dans certaines communes où les pratiques sont différentes d'une autre commune un peu.
Et quelle est la procédure à suivre, justement? Qu'est-ce qu'il doit faire exactement ce couple-là?
Dans ce cas-là, quand l'enfant a un père ou une mère qui est connue et en vie, ils donneront directement leur consentement et il faudrait maintenant passer au tribunal. Donc ça c'est la deuxième partie de la procédure. Il va donner le consentement.
Et ça coûte à peu près combien pour faire toutes ces démarches?
Bon, s'il faut chiffrer, bon, je dirais plus ou moins, il faut compter, en tout cas c'est au-delà des $500.
Et voilà, finalement, on sentait depuis le début que Maître Anthony ne voulait pas parler des chiffres.
Tous ne veulent pas parler des chiffres.
On ne veut pas parler des chiffres, mais il ne faut pas se voiler la face, parce qu'une bonne volonté peut être stoppée par tout ce qu'il y a comme paperasse administrative. Et donc, d'une part, le ministère des Affaires sociales et les gens de bonne volonté encouragent à adopter des enfants. Et ensuite, au point de vue procédural, ça vient décourager, ça vient empêcher une bonne volonté à s'exprimer ou à se matérialiser. Ce sera tout à l'heure, notamment après le flash de formation avec Maître Dominique Kamandou qui est dans nos vestiaires, dans nos antichambres, si vous voulez. Avec lui, on va aborder cet aspect de la question au point de vue juridique et des complications qu'il y a. Nicole Ngaka qui nous a dit tout à l'heure qu'elle va continuer à mûrir une idée qu'elle a eue le 31 décembre. Merci beaucoup d'avoir déjà pensé à ça et on suivra la suite.
Merci à vous, Alten Bayrindi.
Merci. Voilà, Maître Dominique est en studio. Bonne année, Maître.
Merci, Walter, et à vous autant.
Merci, le beau jour a changé, il devient bonne année. Bon, je rappelle que nous aurons peut-être la chef de division aux affaires sociales qui s'occupe de ces questions de l'adoption. Il y a Madame Péné, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonne année, madame.
Merci, pareillement.
Voilà, nous commençons cette année avec ces sujets sur une seconde chance qu'il faut donner aux enfants orphelins ou d'autres qui sont démunis. On a entendu un avocat nous dire tout à l'heure que parfois la procédure est assez onéreuse. Au niveau de la division des affaires sociales que vous dirigez, est-ce que il faut payer de l'argent ou pas pour adopter un enfant?
Justement, c'est pour donner des précisions à ce sujet que je voulais intervenir. Chez nous, il ne s'agit que de frais administratifs et qui coûtent $10. Bon, quant à ce qui concerne la justice, nous ne savons toujours pas comment ça se passe, mais nous conseillons les parents de prendre un avocat pour poursuivre la procédure d'adoption, parce que la division urbaine ne délivre qu'une autorisation de garde provisoire aux parents. Justement, nous ne sommes jamais en contact avec la justice et nous aurions souhaité l'être. Parce que maintenant je comprends, Maître Tony nous a dit qu'il ne reçoit pas jamais des parents congolais. Or nous recevons plus de parents congolais. C'est peut-être à cause de ces frais que ces parents n'osent pas les aborder.
À cause des frais au niveau judiciaire.
Si $500, c'est pas à la portée de chaque bourse.
Effectivement. Nous avons un avocat en studio, Maître Dominique.
Oui, je pense que nous devons faire la part des choses. J'ai bien suivi Madame chef de division des affaires sociales. Oui. Elle a effectivement raison. Mais moi, je voudrais préciser une chose. Nous devons faire la part des choses entre les frais de justice qui sont payés au tribunal de paix, entre autres les frais de consignation, les frais de procédure et les frais d'honoraires des avocats. Donc, c'est peut-être au niveau des honoraires des avocats qui sont consultés pour prendre en charge les dossiers et les gérer sur les plans judiciaires en respectant toute la procédure pour faire aboutir l'action, qui sont un peu plus élevés. Mais en ce qui concerne les frais de justice en soi, ils ne sont pas très, très importants.
Voilà, madame la chef de division, si on peut, si vous voulez, couper carrément le volume de la radio, du poste récepteur que vous avez dans la salle, parce que seulement avec votre téléphone, vous allez nous attendre. Si on peut couper la radio, là. Voilà, ah, voilà, on se comprend mieux maintenant, il n'y a plus de bruit. Est-ce que vous avez entendu la précision de Maître Dominique par rapport à la part des choses qu'il faut faire entre les frais administratifs et les honoraires de l'avocat?
Oui, je l'ai entendu, mais je ne sais pas si les avocats ne feraient pas aussi, tel que le dit Maître, de voir surtout l'intérêt de l'enfant. Si un enfant, puisqu'un enfant a besoin d'une famille, il ne devrait pas revoir un peu à la baisse le taux d'honoraires, comme ça, ça permettrait à tous les parents de venir consulter un avocat pour vivre la procédure judiciaire.
Maître Dominique.
Merci beaucoup, madame, mais je ne suis pas là pour parler au nom des avocats ou au nom du Conseil de l'Ordre des avocats ne m'a pas mandaté pour cela. J'espère que tous les confrères nous ont suivis et le Conseil de l'Ordre des avocats a suivi et ils pourront prendre des mesures utiles en ce qui concerne les barèmes des honoraires pour que pareil cas ou pareil dossier qui ont une connotation beaucoup plus sociale soit géré avec plus d'humanité.
Maître Dominique, il faut rappeler aux auditeurs qu'il est ici en tant qu'expert pour Avocats sans frontières Belgique et que donc il n'engage pas forcément le Conseil de l'Ordre des avocats. Il y va aussi de la procédure et surtout de la déontologie qui régit sa profession. Il ne faut pas qu'on fasse aussi l'amalgame. Alors, Madame Penelombe, la question que je vais vous poser, vous dites qu'au niveau de la division des affaires sociales, vous recevez des demandeurs congolais qui veulent adopter les enfants.
Oui, oui, mais bon, surtout nous sommes toujours butés à certaines difficultés. Ce sont les parents qui, d'habitude, vous savez que ce ne sont pas les grands enfants qui sont demandés en adoption, c'est toujours les bébés. Mm-hmm. Et c'est surtout les parents qui se retrouvent donc dans la parcelle où, par exemple, on a jeté un enfant. Ce sont ces parents qui nous obligent de prendre cet enfant, mais pourtant, ils n'ont peut-être pas les moyens, mais il arrive aussi des familles qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui viennent le faire en secret. Ce sont des parents congolais. Surtout maintenant, en ce qui concerne les étrangers, je profite de l'occasion pour vous en parler. Nous sommes au regret de constater que les adoptions qui se font pour les étrangers passent rarement par la division. Et un jour, nous sommes même tombés sur un dossier où l'adoption a été autorisée par une chancellerie. Alors que ce n'est pas ce qui devrait se faire. La procédure n'a pas été suivie parce que chez nous, à la division urbaine, il faudrait d'abord que lorsque un enfant est déclaré indigent, il y ait un PV qui sanctionne cette indigence, donc qui sanctionne l'abandon de cet enfant-là. Et ce PV doit se retrouver dans le dossier parce qu'on ne sait jamais, un parent peut revenir réclamer que lui, c'est le parent de cet enfant alors qu'il lui a abandonné. Il a abandonné cet enfant depuis plusieurs années. Et c'est après le PV qui vient chez nous et que nous, maintenant, nous faisons des enquêtes auprès de la famille qui recherche un enfant à adopter s'il a les moyens nécessaires. Mais maintenant, pour les enfants qui sortent en Europe, comment est-ce que le pays suivra la vie de ces enfants-là? Comment est-ce que ces enfants sauront leur origine aussi longtemps que ça s'est fait? Enfin, je ne sais pas quel mot utiliser, mais nous ne travaillons pas ensemble, que ce soit le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Justice. C'est comme si nous faisons cela en ordre dispersé. C'est là mon souci.
Oui, donc on comprend qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, vous avez un manque en ce qui concerne les données chiffrées, toutes les procédures. Mais il y a quand même une question qui vous est adressée, madame. Elle vient de Mbujimayi ou à Balengela. Enfin, à Balengela, c'est pour ajouter Mbujimayi. C'est Hilaire Monseka qui pose la question. Il voudrait savoir quel est l'effort au niveau du ministère des Affaires sociales en vue de réduire au strict minimum les frais administratifs pour l'adoption.
Mais je vous ai dit, le ministère des Affaires sociales, nous, à notre niveau, le frais administratif s'élève à 10 dollars. Je ne sais pas s'il faudra encore réduire à plus de 10 dollars. Là n'est pas le problème parce qu'un enfant n'a pas de prix.
Oui, Maître Dominique, une réaction?
Effectivement, je voulais réagir en fonction de ce que madame vient de dire avant de répondre à la question.
Par rapport à la procédure, l'adoption par les étrangers.
Effectivement, nous devons faire la part des choses. La loi détermine des procédures différentes selon qu'il s'agit des enfants abandonnés ou des orphelins, des enfants qui n'ont ni père ni mère identifiés, pour lesquels il faut passer par les conseils des tutelles et qui est chapeauté par les ministères des Affaires sociales qui jouent un rôle important quant à ceux, et des enfants qui ont des familles biologiques, des familles d'origine bien connues, dont les parents sont connus et qui sont proposés à l'adoption parfois avec le consentement des enfants. Donc les deux procédures diffèrent. On peut se retrouver dans un cas tout comme dans l'autre, mais selon la loi, on ne peut pas adopter un enfant abandonné, un enfant orphelin qui n'a ni père ni mère, sans passer par les conseils des tutelles qui est un organe qui œuvre dans les cadres des affaires sociales, bien sûr, avec, il doit y avoir aussi la participation d'un délégué du ministère de la Justice, qui est un organe établi par l'État pour pouvoir gérer tout l'ensemble de ces dossiers au mieux des intérêts des enfants.
Oui, Madame Péné-Lombé, je vais vous poser l'autre question parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a ce manque de collaboration entre le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice et d'autres experts sur la question. Mais au niveau du conseil des tutelles qui semble être, si vous voulez, l'organe décisionnel en fin de compte dans un certain cas, qui siège là-dedans? Est-ce qu'il y a des délégués de tous ces organes, notamment, par exemple, quelqu'un du ministère des Affaires sociales, c'est l'avance à dire parce que ça cherche chez vous, mais quelqu'un du ministère de la Justice et peut-être un expert avocat qui maîtrise bien les questions.
Bon, chez nous, au bureau de l'action sociale, nous avons un juriste qui travaille surtout pour ces dossiers, mais quand, en ce qui concerne le conseil de tutelle, je ne sais pas, je n'ai encore jamais pris contact avec ce conseil-là, je ne sais même pas s'il fonctionne. J'ai déjà, pour le cas de l'adoption que nous avons surpris, parce que je me retrouvais quelque part et j'ai trouvé une femme européenne avec deux enfants congolais. J'ai été obligé de lui poser la question. Elle m'a montré des documents et m'a présenté la tante paternelle de ses enfants qui aurait autorisé leur adoption. C'était deux enfants, un garçon et une fille de 3 et 4 ans. Et lorsque nous avons nous-mêmes poursuivi nos enquêtes pour connaître ce qu'il en était, curieusement, l'adresse que la dame nous a donnée était fausse et tout ce qui était dans les documents était faux. Alors, voilà. Et pourtant, il y avait des documents de cette commission, je ne sais pas, quelque chose. Tout y est, mais tout était faux parce que nous avons poursuivi de notre côté nos enquêtes.
Ok, alors il se dégage une chose, c'est qu'il faut maîtriser les procédures, il faut échanger les formations. J'espère que Maître Dominique peut-être passera un jour à la division pour discuter avec vous, ou que vous-même vous contacterez d'autres avocats, parce qu'il faut redynamiser les conseils des tutelles, parce que c'est surprenant d'entendre que Madame la chef de division des affaires sociales ne sache pas où siège le conseil des tutelles, ou s'il est même opérationnel.
Effectivement, c'est surprenant parce qu'au regard de la loi, particulièrement du code de la famille, c'est la seule organe habilité à pouvoir donner l'autorisation pour l'adoption des enfants, surtout quand il s'agit des enfants abandonnés, des enfants orphelins qui n'ont ni père ni mère identifiés.
Donc, une grosse matière, madame,
je crois que l'ordonnance créant le ministère des Affaires sociales donne le pouvoir à ce ministère de pouvoir accorder l'autorisation provisoire pour les enfants abandonnés. Et c'est au ministère des Affaires sociales que commence tout, c'est le début des enquêtes et tout, avant que la procédure ne puisse continuer. Et je ne vois pas comment est-ce que le ministère ne puisse pas être concerné. Je ne sais pas, nous avons toujours, même, j'ai déjà eu un débat avec un avocat, et l'avocat m'a encore répondu ceci, qu'eux ne connaissaient pas que c'était au ministère des Affaires sociales qu'il fallait, recourir. C'est comme ça que je dis qu'il y a un manque de collaboration, et j'ai même dit à Nicole que moi, j'ai souhaité, je demande à mes autorités à ce qu'il y ait quand même une séance de travail, ou plutôt quelque chose, une rencontre entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Justice pour réclarifier cette situation des adoptions des enfants.
Oui. Okay,
pour l'intérêt de nos enfants.
Pour l'intérêt de nos enfants. J'ai noté quand même que vous avez dit autorisation provisoire. Ça veut dire qu'il y a une autorisation provisoire définitive qui dépend d'un organe que Maître a cité tout à l'heure en lisant le code de la famille, que c'est le conseil des tutelles.
Effectivement, mais ce n'est pas le conseil des tutelles qui prend la décision définitive.
Non.
La décision définitive revient au tribunal de paix.
Voilà.
Et voilà
autant d'échelons.
Effectivement, le conseil des tutelles, comme l'enfant n'a pas de parents identifiés, joue le rôle des parents pour donner le consentement et l'autorisation à l'adoption.
Donc il y a un intérêt à ce que les experts sur la question de l'adoption, notamment des questions qui touchent la famille, les enfants, soient clarifier, comme a demandé Madame la chef de division. On va arrêter le débat d'aujourd'hui à ce moment-ci, en suscitant toutes ces questions qu'il va falloir suivre pour voir comment ça se sera fait. Madame Penelombe, j'espère que prochainement vous serez encore disponible pour partager votre expérience de travail avec les auditeurs et d'autres avocats pour approfondir cette question. Laissez-moi vous dire bonne année encore une fois et vous souhaiter plein succès dans la réalisation de vos tâches.
Merci beaucoup, merci à Radio Capi, merci à l'opportunité que vous nous offrez de parler de ce sujet si sensible. Merci beaucoup.
Merci madame, maître Dominique, merci et bonne année encore.
Merci Walter, meilleurs voeux à vous-même ainsi qu'à votre famille et à toute l'équipe de la Radio Capi.
Merci, ils ont attendu. Il y a votre t-shirt qui vous attend parce que vous aviez gagné un t-shirt le 27 décembre.
Merci.
On va vous les donner tout à l'heure. Merci, on se retrouve dans quelques instants. Au Capi Action, la deuxième partie est déjà amorcée. C'est avec cette situation qui préoccupe les opérateurs économiques entre Boutembo et Goma. L'activité commerciale entre Boutembo et Goma souffre le chaud et le froid. C'est depuis les affrontements de Kanyabayonga du 12 décembre 2004. Kanyabayonga est situé sur l'unique route au centre entre Boutembo et Goma. Les commerçants s'en plaignent. Ils ne peuvent pas acheminer leurs marchandises de Boutembo vers Goma et vice versa. Les auditeurs de Radio Capi l'ont appris que le trafic Boutembo-Goma a diminué. Alors, dites-nous, pour en parler, c'est avec Étienne Mouindo qui est en ligne depuis Boutembo. Étienne Mouindo, bonne année et bonjour.
Oui, bonne année à Walter, bonne année à tous les auditeurs de Radio Capi. En fait, vous parliez de cette situation que traversent les commerçants, mais aussi la population du Grand Nord. Et j'imagine aussi la population de Goma, et donc même des territoires de Rutshuru. En fait, la situation remonte au 12 décembre dernier, lorsqu'il y a eu affrontement entre l'armée régulière et les mutins de la 8e région militaire. Et donc la route était bloquée, la route Boutembo-Goma, suite aux affrontements qui ont eu lieu dans le secteur de Kanyabayonga. Et depuis, la circulation est réduite, quand bien même il y a eu cessation des hostilités, mais la circulation, la libre circulation n'est pas encore garantie. C'est ainsi que même certains camions qui sont allés, qui ont quitté Boutembo pour Goma, éprouvaient des difficultés énormes. Les loueurs de véhicules qu'on appelle ici, comme ils se réunissent dans une association, et ces loueurs de véhicules déplorent justement l'augmentation de certaines taxes. C'est comme si on venait d'un autre pays, et donc à l'entrée de Goma, on doit payer certaines taxes, on l'appelle cela, des taxes supplémentaires de douane.
Mais alors, depuis une semaine, il y a cessation des hostilités. Normalement, il ne devrait pas y avoir blocage sur le point de vue de la libre circulation des personnes et de leurs biens.
Oui, vous dites normalement, c'est vrai que les hostilités ont cessé, il y a eu cessation des hostilités, cessation officielle, on a même établi une zone tampon entre Kanyabayonga et Kirumba, mais cette zone tampon reste, ce n'est pas encore en application parce que on sent que la libre circulation n'est pas encore établie. Il y a plusieurs ONG, même Monseigneur, l'évêque de Boutembo-Béni a dit à le déplorer, et les ONG qui opèrent sur ce secteur déplorent également la non-effectivité de cette zone tampon.
Mais Étienne Mouindo, vous nous avez parlé de réduction de trafic. Réduction des trafics entre Boutembo et Goma, c'est pour dire quand même que certains commerçants arrivent à faire le trajet.
Oui, durant le fête de Noël et de la bonne année, ici, il y a eu deux camions qui ont fait le voyage Goma-Boutembo. Et donc, on ne peut pas parler de paralysie totale, mais sauf des réductions. D'après les commerçants, on les fait, quand on part, on fait Boutembo-Goma, c'est un risque et péril. Et parce que il y a encore des coupeurs de route, déserteurs, surtout des côtés, que ce soit des côtés de Mitin, tout comme du côté de l'armée régulière. Et donc, la route n'est pas encore sécurisée totalement, et cela a des conséquences, justement, des conséquences négatives sur l'économie, sur le commerce entre les deux grandes villes de la région, et ici, je cite Boutembo et Goma.
Mais voilà, nous allons en prendre dans quelques instants des précisions avec le président de la FEC, Boutembo Lubero. Ce sera M. Polycarpe Ndibito Kikwaya qu'on va appeler dans quelques instants pour l'heure. Étienne, nous vous remercions de nous avoir donné ces précieuses informations. Lorsque l'on sait que l'activité commerciale, c'est une des plus importantes dans la province du Nord Kivu.
Oui, merci.
Mouindo, bonne année encore une fois et à très bientôt.
Je vous remercie, Walter.
Mais voilà, au Capi Action, nous allons rester dans cette question économique dans quelques instants avec plus de détails, d'informations sur la rupture, si vous voulez, du trafic commercial entre Goma et Butembo à la suite des affrontements du 12 décembre 2004. Et nous devrions avoir dans quelques instants en ligne depuis Butembo, Monsieur Polycarpe Ndibito Kikwaya, qui est président de la Fédération des entreprises du Congo, la section de Butembo, Lubero. On va l'avoir le temps que nos services y arrivent. Rappelons que selon les informations que Étienne Mundo vient de nous fournir, il y a deux camions qui ont essayé quand même de se risquer sur cette voie et que ils ont rencontré plutôt des barrières qu'on leur demande de payer une taxe supplémentaire alors qu'ils sont dans un même pays, et ce qui a surpris sérieusement ces opérateurs économiques qui se sont rendus dans la zone. On va avoir peut-être d'autres informations complémentaires, peut-être précieuse, avec Papa Ndibito qui est en ligne. Monsieur Polycarpe Ndibito, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Bonne année, papa, et toutes les bonnes choses pour 2005.
Merci, merci pareillement.
Voilà, nous sommes en ligne avec vous pour parler de cette situation qui préoccupe la corporation économique au niveau de Butembo à la suite, notamment, de la rupture du trafic entre Butembo et Goma. Au niveau de la FEC, quelles sont les conséquences que vous avez ressenties après cette guerre?
Merci pour la question. Ben, écoutez, les conséquences sont multiples. Et vous savez, lorsqu'il y a interruption de trafic entre deux grandes villes comme Butembo et Goma, les conséquences ne peuvent être que très élevées. D'abord, premièrement, vous savez, avec ça, la population elle est très inquiète de tout cela. Elle ne sait pas quand est-ce que la situation va se normaliser. Et le taux d'échange, le taux de dollars est en train d'augmenter, de prendre l'ascenseur. Parce que le dollar qu'on échangeait dernièrement à environ 450, il est monté brutalement, il est presque à 500 maintenant. Et aussi, bon, les prix ne font que monter, les prix des produits de première nécessité, surtout à provenance de Goma, notamment la bière et tout cela. Les prix ne font qu'augmenter. Il en est de même pour Goma et les prix des huiles de palme en provenance de Wicha qui sont également très très élevés. Donc là, et la situation en général, la population elle se demande quand est-ce que les militaires, donc ce que nous appelons les militaires ici, quand est-ce que ils vont adhérer à la cause de la République démocratique du Congo. C'est ça la préoccupation de la population.
Oui, nous avons appris qu'au moins deux camions ont tenté de franchir cette zone tampon pour faire le trafic Goma à Butembo. On a appris qu'on leur a fait payer des taxes supplémentaires.
Mais c'est cela justement. Les quelques véhicules qui ont fait ça, ce n'est même pas, ils ne sont pas, je crois, tout au plus 5 véhicules qui ont fait ça. Ce sont des téméraires. Vous savez, dans les business, il y en a qui sont téméraires et qui n'ont pas peur. Ils ont essayé de le faire, mais ils ont payé beaucoup d'argent. Ils ont payé beaucoup d'argent avec beaucoup de risques. Vous savez, il y a beaucoup de barrières de contrôle sur la route. Et à chaque barrière, il faut donner beaucoup d'argent pour passer avec la marchandise. C'est cela le problème qu'il y a eu.
Est-ce que au niveau de la FEC Boutembo Loubero, vous avez fait des démarches pour essayer d'obtenir peut-être un sauf-conduit sur cet axe-là, parce que cette route-là, c'est une espèce de colonne vertébrale pour les activités économiques entre Boutembo et Goma?
Oui, justement, bon, à ce sujet, ben, on a contacté l'autorité locale, d'abord la mairie ici à Boutembo, on a contacté l'administrateur du territoire à Loubero, et nous avons contacté, d'ailleurs dernièrement, avant donc, la veille de la Bonana, nous avons envoyé une délégation à Loubero, rencontrer le général Onoyo qui est commandant des opérations, et ils se sont apitoyés sur le sort des activités, effectivement, mais jusque-là, il n'y a pas un planning approprié parce que la sécurité n'est pas encore de mise. Donc, jusque-là, ils s'apitoient, mais il n'y a rien de concret qui soit fait.
Est-ce que vous n'avez pas tenté de joindre les autorités au sommet, c'est-à-dire le gouverneur et ses deux vice-gouverneurs? Qu'est-ce qu'ils disent de cette situation, surtout celui chargé de l'économie?
Mais c'est une situation connue de tout le monde, que ce soit au niveau de Kinshasa, au niveau national, que ce soit au niveau de la province. Tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer. Donc, on attend que la situation se calme, mais parce que jusque-là, justement, ce qui fait encore plus peur, c'est ce qui s'est passé lorsque les militaires de FRDC, ils se sont rués dans les fermes des opérateurs économiques dans le sud de Loubero. Selon les nouvelles à notre possession, il y a plus de 5 éleveurs qui ont trouvé la mort et il y a beaucoup de bétails qui ont été bouffés par nos frères militaires. Et c'est ça qui continue à créer la psychose au sein de la population. Il en est de même pour les localités qui jusque-là sont en contrôle, ben, c'est pas par l'une ou l'autre partie, notamment à Kirumba, à Kaina et à Kanyabayonga. Toutes ces populations continuent à se faire torturer par nos frères militaires, que ce soit de l'ANC, que ce soit de FRDC, et c'est ça la situation qui fait peur à la population et qui a même peur d'affronter cette route sur Goma.
Alors, Monsieur Polycarpe Ndivito, quel est le cahier de charge des opérateurs économiques qui font les trafics entre Goma et Boutembo et vice-versa?
Mais jusque-là, on n'a pas encore. On va convoquer une réunion justement ce mercredi pour échanger là-dessus. On n'a pas encore fait un programme précis, mais est-il que les charges autour de ce trafic sont devenues tellement élevées, et puis avec la psychose dont je venais de vous en parler, et les gens, ils se méfient de ce tronçon-là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de contourner pour la plupart la solution qu'ils ont envisagée. Ils veulent passer, faire un cabotage par l'Ouganda, c'est-à-dire passer par Ishacha et sortir vers Rutshuru. C'est cela qu'ils sont en train de faire. Kasindi, donc Beni, Kasindi, Ishacha, donc avec un cabotage par l'Ouganda.
Mais ça devrait dire beaucoup plus de frais, parce que lorsqu'ils doivent repasser par l'Ouganda, ils vont forcément payer les frais de passage.
Mais qu'est-ce que vous voulez? À l'impossible, ni les tenues, c'est cela, justement, c'est pourquoi nous, les hommes d'affaires, dans les affaires, on a toujours prôné que l'État fasse son devoir. Il faut que l'État distribue la sécurité pour que tout le monde puisse travailler normalement. Et c'est cela la préoccupation de tout le monde ici.
Et voilà, Monsieur Polycarpe Ndivito Kikoya, je rappelle que vous êtes le président de la FEC Boutembo Loubero, et qu'avec vous, nous abordions cette question des conséquences de cette guerre qui a survenu à Kanyabayonga le 12 décembre sur l'économie qui se retrouve être en souffrance à Boutembo. Les opérateurs économiques ne savent pas acheminer les marchandises de Boutembo vers Goma et de Goma vers Boutembo. Ils doivent faire un détour par l'Ouganda. Merci beaucoup de nous avoir fourni toutes ces informations. Nous souhaitons que la calmie revienne pour que tous les opérateurs économiques, tous les commerçants de la zone puissent retrouver cette route qui est pour eux un passage obligé dans le cadre de leurs activités. Bonne année encore une fois et meilleurs vœux pour 2005, Papa Ndivito.
Ok, nous vous remercions. Veuillez transmettre nos vœux les meilleurs à tous nos frères qui sont là-bas à Kinshasa et partout dans la République démocratique du Congo. On vous remercie.
Merci beaucoup. Tous ceux qui vous connaissent et qui vous ont suivis ont attendu ces vœux. J'espère qu'ils vont vous les réciproquer. Bonne journée à Boutembo. Merci Okapi Action, toutes ces personnes qui nous écoutent, qui ont besoin de consolation, qui ont surtout besoin des solutions pour les problèmes qui empêchent l'épanouissement dans leurs affaires. On pense aux opérateurs économiques de Beni Boutembo, de Litouri, dans les zones troubles de notre pays. Soit dit en passant, il y a un auditeur qui nous appelait tout à l'heure, Balekar, le boutiquier de Ouvira, qui nous rappelait son t-shirt, oui, 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 mais il n'avait pas donné sa taille. On a maintenant la taille, c'est XXL, le plus grand numéro. Merci Balekar de continuer à nous écouter à Ouvira. On va quitter Ouvira pour une ville un peu plus proche quand même de Ouvira, dans le sens du nord-ouest de Ouvira.
Okapi.
Okapi Akindou sur 103 FM.
Nous y sommes à Kindou, il se pose pas mal de problèmes, parmi lesquels la sécurité transfusionnelle. Cela préoccupe la corporation médicale au Maniema, surtout une province où des maladies telles que la syphilis, l'hépatite, sous toutes ses formes, la malaria, la trypanosomiase, la filariose sont courantes, sans parler évidemment du VIH-Sida. On en parle avec Mathieu Ilunga Chamboui. Mathieu, bonjour.
Bonjour Walter.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qui se fait actuellement au Maniema, ce qui concerne la sécurité transfusionnelle?
Bien sûr Walter, le coordonnateur provincial du programme national de transfusion sanguine, il vient fraîchement de Kinshasa où il a participé à la 5e journée scientifique sur la transfusion sanguine. Selon lui, il nous a expliqué que toutes les maladies que vous venez de citer si haut dominent dans cette province. Et cela constitue un risque pour les malades qui ont besoin de transfusion sanguine. Nous pouvons bien écouter Antoine Katumbi, qui est coordonnateur provincial du programme national de transfusion sanguine.
La cartographie et les activités journalières que nous effectuons, c'est-à-dire que les activités de routine, les supervisions, les collectes du monde des données. Par rapport avec les collectes des données, parce qu'il y a des points saillants en ce qui concerne le taux du monde des donneurs bénévoles, qui ne revient ici chez nous qu'à 7%, et pourtant que dans d'autres provinces, ils sont déjà à 100%, rien que les donneurs bénévoles. Chez nous, ça en demande beaucoup. On ne dit pas qu'on pourra mettre fin du moins au risque lié à la transfusion, mais pour le réduire à faible degré, il nous faudra nécessairement que nous ayons un grand nombre du moins des donneurs bénévoles. Il faudra aussi que nous disposions du moins d'un équipement performant, un équipement qui pourra permettre que celui qui se trouverait à Ilo, qu'il ait la possibilité d'avoir un sang de qualité, un sang bien sécurisé. Nous avons une première difficulté, la faible participation du moins de la communauté. Parce que quand on parle du moins des sangs, c'est la communauté qui en a besoin. Les sangs, on ne peut pas l'acheter dehors. C'est-à-dire que c'est la population qui doit s'en servir, se prendre en charge pour offrir du moins du sang pour ceux qui en ont besoin. Et il y a aussi d'autres difficultés d'ordre de formation. La sécurité transfusionnelle, c'est une nouveauté. Du jour au jour, il y a des nouveautés qui ont nécessairement qu'il y aura du moins des changements. Nous sommes appelés à former nos personnels. Et à cela s'ajoute le faible taux du moins des donneurs bénévoles. La mobilisation est trop faible. Dans la mobilisation, il faudra et la population et les ONG nous aident à mener du moins cette mobilisation. C'est une mesure aussi du moins de prévention. Lorsqu'on fait du moins les analyses, et ils savent du moins l'état sérologique.
Antoine Katumbi, coordonnateur provincial du programme national des transfusions sanguines pour le Maniema. Il vient de Kinshasa, vous nous l'avez dit, Mathieu Ilunga. Est-ce qu'on peut connaître ces... Quelle est la situation, quels sont les besoins en termes de sécurité transfusionnelle pour la province du Maniema?
Exactement, Walter. Vous avez pu constater qu'au lieu de présenter un rapport, le responsable provincial du programme national de transfusion sanguine, lui s'est attelé sur la cartographie de la province, du moins pour ce qui est de la transfusion sanguine. Mais il a aussi dit que c'est un programme spécial qui comporte beaucoup d'innovations. Nous pouvons quand même, je vous propose de l'écouter quand même.
Nous avons aussi approvisionné du moins toute notre province en réactifs, en poches et les accessoires liés du moins à la transfusion. Mais à l'heure où nous vous parlons, presque tous les sangs, les 100% du moins des sangs transfusés ont été testés. Malgré la faible participation du moins de la population, il y a quand même 7% déjà du moins de cette population, qui sont considérés comme étant du moins des donneurs bénévoles. Et d'ici le mois de janvier, nous espérons quand même qu'il y aura une contribution qui pourra entièrement venir, soit un appui, dans ce sens spécifique du moins du programme national de transfusion sanguine. Si à ce qui concerne du moins transfusion du moins de demain, qui n'est pas cette transfusion que nous faisions dans le temps. Donc pour transfuser, il fallait nécessairement que la poche qui doit être transfusée, que ça passe d'abord 3 jours au frigo, en étant gardé. L'immunitaire puisse réagir dans ce sang qui est gardé au frigo, pour permettre à assurer du moins la sécurité à celui qui le reçoit. Ce que nous avons apporté d'abord, c'est l'information. Il y a des nouveautés. Et à ces nouveautés-là, nous amènera à pouvoir quand même organiser du moins des formations, surtout pour nos personnels. Et à ces nouveautés-là, il fallait nécessairement quand même qu'il y ait une participation active et de toutes couches possibles. C'est d'abord ça, de nouveau.
Voilà, dans ce domaine de la sécurité transfusionnelle, il y a des étapes parmi les plus importantes. Il faut qu'il y ait des donneurs bénévoles, il faut qu'il y ait du sang de très bonne qualité, c'est-à-dire testé, et puis il faut qu'il y ait une banque de sang pour que le sang soit disponible. Dites-nous, Mathieu Ilunga, est-ce que au niveau de Kindu et des autres parties de la province du Maniema, les malades qui ont besoin de sang trouvent facilement le sang?
Comme vous venez de le suivre, c'est dans le but d'assurer cette sécurité transfusionnelle que le programme national de transfusion sanguine a mis sur pied ses activités dans cette province. Selon même le coordonnateur provincial, le bilan de l'année écoulée est positif. Cela signifie que ces travaux ou bien ces activités existent déjà dans la province, puisqu'il nous a rassuré que les objectifs ont été atteints à 70%, malgré les difficultés auxquelles ils se sont butés. Pour lui, l'espoir est là, selon l'explication d'Antoine Katumbi. Nous pouvons l'écouter.
Sans prétention, je vous dirais qu'on a applaudi les rapports apportés par les Maniema, compte tenu, du moins, des difficultés dans lesquelles cette province est en train, du moins, de se démener pour qu'elle soit réellement une province à la hauteur des autres provinces. Les problèmes sont multiples et à des niveaux différents. C'est-à-dire qu'avec la participation locale, nous pouvons être capables du moins de remédier certains problèmes. Il y a eu, avant notre départ de Kinshasa, il y a eu une délégation venant du niveau national qui est venue ici évaluer la situation. Et on a évalué, on a fait l'état des lieux de toute la province. Les promesses sont là. D'ici le mois de janvier, le gouvernement a pris acte du moins de nos difficultés et de cet état des lieux. Nous espérons quand même qu'il y aura une contribution qui pourra entièrement venir, soit un appui, dans ce sens spécifique du moins du programme national de transfusion sanguine. Ce n'est pas tout, parce que même aussi avec les intervenants locaux, surtout avec la Monique, parce que nous ne cessons pas du moins d'étendre la main auprès de la Monique pour qu'elle puisse quand même venir, du moins, en aide pour cette population qui a tant souffert.
Antoine Katumbi, Mathieu Ilunga, merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir des informations au sujet de la sécurité transfusionnelle à Kindu et dans le Maniema. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter la bonne année et plein succès pour 2005. À vous, Mathieu, et à tous nos auditeurs du Maniema.
Merci beaucoup, Alter. Meilleurs vœux de la nouvelle année 2005.
Voilà, l'eau, c'est ce qu'on peut dire. J'allais parler de l'eau, c'est la vie. Plutôt, je voulais dire le sang, c'est la vie. Et que celui qui donne le sang donne la vie. Il faut que ce sang soit pur et sain. C'est un message à l'intention de ceux qui voudraient être donneurs bénévoles pour alimenter les banques du sang. Très bien, nous avons en ligne M. Michel Kawende. Monsieur Michel Kawende, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles pour la province du Maniema. On sait très bien qu'il y a un impact, notamment de la transfusion sanguine sur les infections sexuellement transmissibles et le sida. Lorsque on attend que la province du Maniema connaît des sérieux problèmes en ce qui concerne notamment cette sécurité transfusionnelle, l'impact au niveau de votre programme doit être aussi important.
Je n'ai pas bien suivi.
Nous sommes en train de parler de la sécurité transfusionnelle au Maniema et vous qui dirigez le programme national de lutte contre le sida au niveau provincial, vous savez sans doute qu'il y a un impact non moins négligeable de la sécurité transfusionnelle par rapport aux infections sexuellement transmissibles et le sida. Est-ce que vous avez noté ces effets au niveau du Maniema?
Bon, écoutez, si je vous ai bien suivi, vous voulez parler de la sécurité transfusionnelle?
Oui, par rapport à son impact sur les maladies sexuellement transmissibles et le sida.
Ok. Le sida est d'abord une maladie sexuellement transmissible comme les autres maladies sexuellement transmissibles.
l'essence, le fer voit des propagations et de la contamination du VIH SIDA. Alors ici au Maniema, nous avons un point focal qui se charge plus précisément de la transfusion, de la sécurité transfusionnelle au Maniema. C'est-à-dire on ne peut transmettre, transfuser les sang sans que ces sangs-là soient examinés, qui ne contiennent pas de VIH dans les sangs transfusés.
Mais oui, mais...
Alors, l'impact que cette sécurité transfusionnelle, c'est limiter la propagation de cette maladie par la voie sanguine. Mmh. Il n'y a pas seulement les VIH-SIDA, il y a aussi la syphilis.
Oui, oui, oui. Mais Michel Cohen, est-ce que vous avez suffisamment d'équipement à votre niveau, au niveau de Kindu, et pour desservir d'autres centres importants de la province du Maniema pour effectivement vérifier la qualité, si vous voulez, tester la qualité du sang qui vous est donné par certains donneurs?
En tout cas, nous avons, parce que j'ai dit, déjà nous avons un point focal, c'est une coordination, si vous voulez, dans d'autres termes, qui se charge de la sécurité transfusionnelle. Et dans chaque zone de santé, nous en avons 18. Nous proposons à chaque bureau central des poches de sang, comme c'est plus simple, et des tests VIH. C'est-à-dire, ce qui passe dans les hôpitaux généraux de référence pour recevoir du sang, ce sang doit être examiné avant d'être transfusé par les moyens mis à leur disposition. Et partout dans la province du Maniema, dans les hôpitaux généraux de référence, il y a des kits prédisposés pour assurer la sécurité transfusionnelle.
Parce qu'il y a quelques mois, on faisait état du fait que dans certaines cités du Maniema, il n'y avait pas suffisamment de poches disponibles. Est-ce que vous voulez nous confirmer aujourd'hui que la banque de sang à partir de Kindu et d'un autre centre important fonctionne normalement?
Ok, vous savez, le fait de la guerre était vraiment néfaste parce que déjà à Kindu ont proposé avoir une banque de sang qui était complètement détruite, qui était mise à notre disposition par PNLS. Alors maintenant là, nous avons que des possibilités à mettre des postes et des tests avant toutes les transfusions. Ok.
Alors l'autre problème, l'autre question importante, c'est la disponibilité des donneurs bénévoles. Est-ce que vous avez suffisamment de donneurs au niveau de Kindu? Est-ce que vous organisez des campagnes dans ce sens-là pour que vous ne soyez pas à un moment donné à court de poches de sang?
En tout cas, le point focal s'appelle Antoine et vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations. À ce que j'ai fait, partout dans les zones de santé, il y a le donneur bénévole qui sont sensibilisés et testés, vérifiés avant de donner leur sang.
Mmh. Ben voilà, monsieur Michel Tawindé, je rappelle que vous êtes coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles pour la province du Maniema. Je vous remercie énormément d'avoir partagé votre expérience et votre savoir avec tous les auditeurs de Radio Okapi. J'ai saisi l'occasion pour vous souhaiter une excellente année 2005, qu'elle soit pleine de bonheur et de succès dans la réalisation de vos travaux.
Ok, je suis bon aussi de vous remercier. Vous me supportez toujours comme ça.
Merci beaucoup.